Léo, est-ce que tu peux nous dire deux mots à propos de la permanence violence pour commencer?
Alors la permanence violence, c'est une permanence qui s'est créée en fin mai-juin 2014. Au départ, parce qu'il y a eu à ce moment-là beaucoup de violences policières et c'était le temps entre les deux expulsions. Et un petit peu dans un but d'apporter un peu du savoir sur les gens, sur leurs droits en termes de violence, et faire de l'accompagnement à la plainte s'ils le désiraient. Et aussi recueillir des témoignages de tout ce qui se passe en termes de violences policières. Donc dans un premier temps, ça s'est un peu axé là-dessus. Il y a eu un gros travail sur les expulsions du 2 juillet. Derrière, enfin la rafle du 2 juillet, où il y avait eu 600 personnes qui avaient été emmenées dans des bus et réparties dans toute la France. Quelque chose d'assez horrible. Et après, c'est quelque chose qui, au fil du temps, s'est un peu élargi sur tout type de violence, avec aussi une recrudescence à certains moments d'agression de petits fachos calaisiens ou pas calaisiens. Et qui a demandé une prise en charge de ça, au vu qu'il n'y a aucune instance en France qui le fait lui-même en fait. C'est-à-dire que sur ce type de violence, il y a des instances comme l'IGPN, comme le Défenseur des droits, qui peuvent travailler dessus, mais si personne ne vient les appeler ou déposer une plainte, il n'y a aucune autre instance de contrôle qui contrôle ce que fait la police. Et aussi, il y a eu le changement avec l'augmentation du nombre de migrants sur Calais. Il y a eu de plus en plus de nouvelles compagnies de CRS qui arrivaient et qui tournaient. Et à partir de ce moment-là, là, quand ces nouveaux sont arrivés, il y a eu aussi beaucoup de recrudescence de violence, et parfois grave, hein, ça passe du simple, je sais plus comment le terme juridique, mais mauvais usage de la force ou usage excessif de la force, au tabassage en règle dans la rue de quelqu'un d'isolé. Et donc voilà.
Alors, il y a eu une première saisine du défenseur des droits en 2011. Il y a eu plusieurs saisines au début de cette année. Et le défenseur des droits lui-même s'est auto-saisi de la situation à Calais. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les formes ou la gravité ou l'intensité des violences policières? Et si oui, est-ce que tu peux nous les retracer un peu?
Ouais, bah ça fait une trace sur du très long terme, mais si on reprend un peu les violences de 2011-2012, c'est aussi une période où il y avait la situation des lieux de vie des personnes était différente. On était sur une période où les gens vivaient dans des squats qui n'étaient pas légaux, ou qui les gens ouvraient eux-mêmes. Et du coup, il y avait beaucoup la police qui rentrait dans les squats, qui faisait beaucoup de violence sur les lieux de vie. Donc un harcèlement qui était plutôt un harcèlement quotidien avec les policiers qui venaient tous les jours. Il y avait eu au sein de cette violence une vidéo qui avait fait le tour d'un peu des médias. On voyait trois camionnettes de CRS arriver au milieu d'un squat la nuit, ouvrir les portes, mettre la musique à fond et danser au milieu des gens, ou avec des choses comme ça plutôt psychologiques, plus de territoire. Je pense qu'il y a eu des violences sur les lieux de passage un peu toujours. C'est vrai qu'il y a des phases où il y a des phases où les CRS vont plutôt prendre les gens, les amener à 50 km de Calais, leur enlever les chaussures et leur demander de rentrer au bord de l'autoroute ou des choses comme ça. D'autres phases où ça va être concentré sur les lieux de vie, d'autres moments où ça va être. Du coup, c'est en fait la situation qui évolue. On reprend 2011-2012, première saisine, défenseur des droits qui condamne la France sur les faits qui ont été énoncés. Et qui du coup après fait une petite période de repos, pas très longue. Il y a toujours ce fait où dès qu'il y a un truc un peu médiatique, la police se calme pendant 1 ou 2 semaines, mais pour mieux recommencer avant. Et on peut pas dire que les violences s'arrêtent, mais par exemple ce type de violence sur les lieux de vie, en mode de vraiment démonstratif et des choses comme ça, après la première saisine se sont un peu arrêtés, il y a dû avoir 2-3 ordres, et du coup la violence elle se déplace ailleurs. Où on était passé, ou l'été dernier, et du coup. À partir du moment où, encore une fois, il y a eu une recrudescence des violences, on a un petit peu parlé, la violence est partie plutôt dans les camions, ou dans la nuit, ou sur des personnes isolées. Et au fil des années, en fait, on avait une violence qui était totalement acceptée de partout, ça se produisait en centre-ville ou sur les différents campements, et une violence qui tend à se cacher de plus en plus, en fait. Où les policiers aussi se savent un petit peu plus surveiller, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas d'instance eux-mêmes qui les surveillent vraiment, mais ils savent que médiatiquement il y a des choses qui peuvent se passer, ou des gens qui font des saisines aux défenseurs des droits, ou des choses comme ça. Et donc ils font ça un peu sans témoin, sans rien. Un truc important à noter, c'est qu'on a quand même des faits là sur la dernière saisine qui est 2012-2014, on parle de 100 cas sur lesquels le défenseur des droits est saisi. La dernière en mai 2015, c'est sur une quarantaine de cas encore. Donc c'est un nombre important de faits à chaque fois, et qui sont qu'une goutte d'eau dans la vase. Des personnes qui sont allées rencontrer les gens et qui ont dû les convaincre de faire un témoignage sur ce qui s'est passé généralement. Donc c'est aussi peu représentatif du nombre général de violences qui se fait. Et sur tous ces cas, il n'y a jamais eu un seul signalement de la police en 5 ans. Jamais en interne où il y a une procédure qui ne s'est pas déroulée autre que par dénonciation extérieure.
Et du coup, quels sont les... comment on caractériserait la violence dans la phase actuelle, les violences policières tout au moins?
Bah, du coup, il y a la phase actuelle, c'est une situation aussi où, en général, où il y a beaucoup plus de monde à Calais qui sont en transit ou qui demandent l'asile en France. Et ce qui fait qu'il y a aussi toutes les personnes qui se mettent dans une position de solidarité ou aidante, que ce soit associatif ou non, qui se retrouvent un peu débordées, fatiguées. Et ce qui fait qu'il y a aussi moins de suivi de ces violences. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus perdues au milieu de problèmes, de besoins de base, de nourriture, de choses comme ça, où il y a moins la possibilité de recueillir des témoignages. Aussi, c'est pas pareil, quand il y a 400 personnes, tu peux connaître un peu tout le monde et du coup, tu as plus facilement un lien de confiance avec les personnes qui font que bah, tu vas savoir ce qui s'est passé la nuit précédente, est-ce qu'il y a des problèmes et où ils ont lieu eu et avoir une vue un peu d'ensemble. Maintenant, c'est plus du tout possible là et tu vas plutôt tomber sur des faits isolés par hasard, sur des gens que tu croises ou parce que tu vois quelqu'un qui a le bras dans le plâtre ou quelque chose comme ça. En ce moment, ouais, du coup, c'était plus sur un truc où... Il y a un mois, par exemple, les flics passaient sur Jules Ferry sur les lieux de vie. Là, ils ont arrêté de le faire. C'est des choses qui évoluent constamment. Mais ils vont être super présents autour. Où il y a, par exemple, un exilé qui vit sur le bidonville à Jules Ferry, qui parle pas mal aux médias, etc., qui, pour le coup, pas français, qui est un peu connu. Lui, on va avoir des camions de CRS qui vont se poser devant sa maison, éclairer les lumières et l'éclairer toute la nuit. Ou lui faire des signes, le filmer. Si jamais il commence à se rebeller, bah, appeler des renforts. Et toujours un truc de provocation un petit peu sur chercher... à provoquer l'autre. Après, il y a les violences sur les lieux de vie, autour des lieux de vie, qui est limiter la liberté de circulation des gens, même juste pour aller jusqu'en centre-ville, avec des contrôles un peu réguliers sur les deux voies d'accès qui relient le bidonville au centre-ville, ou des passages à tabac sur ces mêmes lieux pour faire peur aux gens et faire en sorte que ils aient plus l'envie ou le courage de passer par là. Il y a tout ce qui se passe après pendant le passage, où je ne sais pas combien de tonnes de gaz lacrymogène est utilisé à Calais, ce serait intéressant d'avoir le chiffre, parce que tout le monde revient gazé, quoi, et ça, il n'y a aucune distinction de personne. Il y a eu des vidéos récemment où on voit des policiers ouvrir les portes du camion, même pas regarder dedans, balancer du gaz, refermer la porte, faire un petit tour autour, gazer des personnes sur le côté, réouvrir la porte, remettre un coup de gaz, la refermer. Et c'est de la torture, en fait, ce genre de choses. Il y a encore des bénévoles d'une association qui, vendredi dernier, prenaient le témoignage de personnes. Ils étaient dans le camion. Ils commencent par en tabasser un pendant 3 minutes. L'autre se recroqueville dans le coin. Au bout d'un moment, ils jettent la personne dehors. Et c'est 4 policiers autour de la personne qui reste au milieu et qui s'amusent dans un jeu un peu de torture, en fait, où t'as 4 hommes qui sont debout autour d'un qui est recroquevillé, qui a vu son pote se faire tabasser, et qui lui mettent des coups, l'insultent, lui prennent son téléphone, le cassent, le jettent dehors, 2 policiers dehors qui continuent à le frapper. Et c'est des choses, c'est inimaginable, et personne ne fait rien en fait, personne ne bouge. On est dans un système où les associations autour sont dans les besoins humanitaires primaires, et c'est pas ferme les yeux, mais ils font rien pour que ça change non plus. On est sur la police qui est verrouillée et qui dit pas, et on est sur une violence qui se normalise pour les gens, où à force d'avoir eu ça là depuis un an, des faits comme ça qui se répètent régulièrement, et voir qu'il n'y a jamais rien qui se passe, les policiers ne sont pas accepter une violence qui s'intériorise en fait, qui est semblée soit comme acquise comme normale, faisant partie de ce truc de transit ou de demande d'asile, ou ferme ta gueule parce que de toute façon t'as aucun droit, ou soit qui a pas de possibilité en fait de faire quelque chose. C'est-à-dire que je sais pas comment dire. Et de l'autre côté, j'imagine pour les policiers un truc où il y a ça qui se passe. Et on voit qu'il n'y a pas de suite derrière, du coup on peut recommencer aussi, ou je sais pas, un sentiment de toute puissance, ou je sais pas ce qui se passe dans leur tête et j'ai pas trop envie de le savoir non plus. Mais c'est quelque chose qui est assez grave. Et c'est pareil, là je parle d'un fait comme ça précis, et ce type d'histoire c'est quand même trop régulier pour que ça soit toujours les mêmes, ou soit il y a une dizaine de super tortionnaires à la police. Mais a priori, avec les compagnies de CRS qui tournent régulièrement et choses comme ça, il y en a plus que 10. Et il y a tous les autres qui ferment leur gueule, en fait, et qui acceptent de vivre avec ces collègues-là, au maximum, si c'est pas les soutenir ou rigoler à leur blague quand ils racontent leur exploit. Et c'est quelque chose de grave, en fait, de se dire que, à Calais, en fait, des policiers, ils ont le droit de faire ça, et qu'il n'y a pas une instance qui va se bouger et qui va faire quelque chose, quoi.
Alors... Il y a les violences policières, il y a aussi les violences d'extrême droite qui, du coup, numériquement, sont assez marginales, mais qui commencent à s'installer dans le paysage. Est-ce que tu peux en parler aussi?
Du coup, les violences d'extrême droite, elles sont, pour en parler, ça vient au départ, pour reprendre un peu, il y a eu Bouchard il y a 2 ans qui commençait à vouloir demander sur une page Facebook de dénoncer les squats, donc un appel à la délation, qui s'enchaîne sur la création d'un groupe qui s'appelle le groupe Sauvons Calais, qui est un groupe tout simplement de petits nazis d'extrême droite qui a un discours qui reprend tous les discours qu'on peut voir dans les groupes identitaires, fascistes, Parti de France, choses comme ça. Donc des petits fascistes en herbe, où le leader charismatique qui arrive à se présenter à une élection, on retrouve des photos de lui sur Facebook avec des croix nazies sur son torse. Enfin, on en est pour ce type de personnes. Et on est sur un départ où beaucoup du discours un peu sur Facebook, les médias sociaux, pas trop de faits. Avec l'année dernière une augmentation des faits réels, mais plus un dirigeant des personnes aidantes. Donc des personnes qui passent du temps avec les migrants, qui des fois sont celles qui apparaissent un peu dans les médias ou non. Et sur des agressions de lycéennes qui passent du temps au squat d'à côté, qui se fait frapper à la sortie du lycée, à la tentative de kidnapping d'une personne présente aussi sur d'autres médias sociaux, mais plutôt en soutien aux personnes exilées. Et sur dernièrement, des faits qui ont été d'abord sporadiques d'agressions autour des lieux de vie, avec des voitures qui viennent et qui viennent tabasser un gars, ou un truc où ça arrive une fois, puis pendant 2 mois rien, puis une fois. Et là, dernièrement, sur des faits qui se répètent, plusieurs agressions de type ratonnade, où des gens préparent en avance le tabassage d'une personne au hasard par rapport à sa couleur de peau, avec un processus bien rodé, puisqu'ils prennent des voitures, ils soit cachent les plaques, soit changent les plaques pour le faire. Un procédé très rapide où la voiture passe, attend de tomber sur une personne isolée, ou soit frappe la personne en roulant, soit sort de la voiture très vite, frappe la personne et repart. Toujours sans témoin autour, donc ce qui fait qu'il est très difficilement identifiable. Et sur là aussi, c'est des trucs où on se demande ce qui se passe. Sur la police qui, au début, sur les faits il y a 2 semaines, ne réagit pas du tout. Avec les gars qui appellent la police, une voiture de police vient et qui dit « Ah, si vous n'avez pas la plaque d'immatriculation, on peut rien faire ». Les faits qui se produisent une semaine plus tard, c'est à toi d'aider les gars à aller dire aux flics que c'est peut-être la même affaire qui fasse les rapprochements. Et ils ont attendu là où ils commencent à avoir une petite étincelle de c'est pas normal de leur côté, même si on n'attend rien d'eux, avec deux personnes qui se font fracasser à coups de barre de fer le crâne, quoi, qui sont encore toutes les deux à l'hôpital. Où en fait, on attend toujours qu'il y ait un mort ou quelque chose comme ça avant que les choses bougent. Parce que là, concrètement, les gars, ils sont vivants, mais vu la violence de l'agression, c'est de la chance, en fait. C'est pas autre chose, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer non plus les prochains jours.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Peut-être ajouter aussi, voici, c'est que sur Calais, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vient pour passer en transit et pour rester et demander l'asile en France. Mais même s'il y a beaucoup de Calaisiens qui se bougent, il n'y en a toujours pas assez. Et que s'il y a des gens qui ont un peu une sensibilité là-dessus, que ce soit loin de Calais ou sur le Calaisie, ne pas oublier ces questions-là. Et qu'en fait, c'est des horreurs que je pense dans quelques années, dans les livres d'histoire, on en aura honte de ces choses-là. Et il faut voir comment on le considère. Mais c'est que maintenant, il faut faire bouger les choses. Et il ne faut pas attendre. En fait. C'est pas acceptable ce qui se passe. Et il faut faire quelque chose. Moi, c'est facile à dire aussi. Et je n'ai pas non plus de solution clé en main. Mais ce qui se passe, c'est vraiment humainement plus que grave. Je n'ai pas les bons mots, mais voilà.
Ok, merci.
Merci.